20h05, un excellent début de soirée à notre compagnie. J'espère que vous allez bien. Au cours de la prochaine heure, nous irons à Drummondville où le maire de l'endroit veut ouvrir une grande terrasse au centre-ville. Je sais pas comment les commerçants de l'endroit, ceux qui veulent rouvrir leur propre terrasse et bar, voient la chose, mais c'est une initiative qui, semble-t-il, va faire des petits dans d'autres villes qui veulent en faire autant. Yves Grondin, le maire de l'endroit, sera avec nous. Notre tournée nous amènera à Magog avec la mairesse de l'endroit, Mme Vickie Méham. Mais dans un premier temps, il est difficile, quand on est intéressé naturellement à l'actualité, de ne pas avoir envie de surveiller de près étroitement ce qui se passe actuellement aux États-Unis, le chaos qui y règne depuis le décès de George Floyd par asphyxie, en tout cas par les gestes évidemment tout à fait dégoûtants du policier Derek Chauvin la semaine dernière à Minneapolis. Des manifestations s'en sont suivies. Le président Trump n'a pas prononcé les mots peut-être qu'une certaine partie de la population attendait, de manifester une forme d'empathie avec nous pour discuter de la situation, partager ses réflexions sur le sujet avec nous, ancien directeur de cabinet de premier ministre ici au Québec, dont M. Robert Bourassa, également ex-délégué général du Québec à New York, M. John Parisella. M. Parisella, bonsoir.
Bonsoir, Mario. Vous allez bien?
Oui, je vais bien. Vous-même?
Oui, très bien, merci.
Avez-vous l'impression que Donald Trump et ses acolytes et ses conseillers font un bon calcul politique en décidant de ne pas prononcer les mots « Black Lives Matter »?
C'est une très bonne question. C'est clair que ce serait, je serais très surpris que M. Trump utilise ces termes-là. Mais c'est clair qu'il emploie le mot « law and order », la loi et l'ordre. Et ça répond pas mal à qu'est-ce que sa base veut. Je pense que quand on regarde la gestion de M. Trump depuis qu'il est président, il y a une chose qui est constante, c'est qu'il renforce toujours sa base. Donc c'est clair que s'il disait « Black Lives Matter », ça voudrait dire qu'il favorise les manifestants et dans sa tête à lui, comme dans le message qu'il envoie, il a envoyé hier, beaucoup des manifestants, même s'il y en a qui le font avec de façon très pacifique, sont derrière les émeutiers, les casseurs, et donc lui, il ne voudra pas donner une légitimité en utilisant ces mots-là. Donc, M. Trump n'est pas un unificateur d'instinct, c'est plutôt une personne qui polarise d'instinct. Et dans sa tête à lui, c'était le message qui était important à passer hier, c'était « law and order », loi et l'ordre, et toute la soirée a été essentiellement tournée autour de ça. Puis tous ses tweets aujourd'hui reviennent sur ça.
Exactement. Vous avez participé à des réunions, j'imagine, d'une grande intensité autour de M. Bourassa ou d'autres premiers ministres pour lesquels vous avez travaillé, M. Parisella, un meeting où des fois ça brasse, où j'imagine que c'est pas la pensée unique qui règne. C'est étonnant, puis peut-être que quelqu'un a déjà tenté de le convaincre, de dire... Si vous disiez ça, vous qui aviez un taux d'approbation à 49% il y a quelques semaines, quand même assez étonnant malgré toutes les controverses, là. En pleine pandémie, il y avait un taux d'approbation à 49%. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu envie d'y vendre l'idée qu'il augmenterait ses chances de réélection s'il les disait, ces mots.
Ben, écoutez, il n'y a pas de doute que l'approche qu'on a quand on est avec un élu, que ce soit moi dans ma vie antérieure avec un premier ministre, c'est toujours d'ajouter à la coalition qui nous a fait élire. On essaie de la maintenir, mais on essaie toujours d'ajouter. Et quand on est capable d'ajouter, bien, on a des meilleures chances à gagner un deuxième terme. M. Trump, essentiellement, a fait le pari que renforcer et garder l'enthousiasme de sa base va être suffisant pour gagner l'élection. Et là, le problème qu'il a vécu depuis quelques mois, Mario, c'est que la gestion de la pandémie semble avoir été déficiente de sa part et la population le voit de cette façon-là. Les gouverneurs en général, dans l'ensemble des sondages qui sont pris à travers du pays, les gouverneurs semblent avoir fait des gains entre 15 et 40% d'approbation additionnelle à ce qu'ils avaient avant. Donc, eux ont ajouté à leur coalition. M. Trump, même s'il y a eu un score de 49% quelque part vers la fin du mois de mars, il est revenu essentiellement à la place où il était avant, qui est quelque chose entre 41 et 44%. Pour certains, je peux comprendre les Montréalais, les Québécois qui nous écoutent, ils disent que c'est encore trop élevé, mais c'est sa base. Il a gagné les élections, 46% du vote. Mme Clinton a eu juste un petit peu en bas de 49%. Elle a eu 3 millions plus de votes que lui, mais lui a gagné les comtés, les États-clés. Il a gagné le collège
électoral, exact.
Donc, il est en train de faire la même stratégie qu'il a fait gagner. Et là, le problème qu'ils avaient depuis quelque temps, puis ça s'est renforcé, c'était qu'on ne parlait que du COVID-19 et avec le taux de mortalité. On est rendu à 106 000 avec le taux de chômage, parce que c'est pas juste un problème de santé, mais c'est un problème économique maintenant grave. Au-delà de 40 millions d'Américains ont perdu de l'emploi ou sont sur le chômage depuis le début de la pandémie. Donc, quand on met tout ça ensemble, M. Trump a de la misère à se faire valoir. Lui qui disait que l'économie n'a jamais été si forte, là, elle est à veille de tomber dans les chiffres des années 30 avec la Grande Dépression. Donc, il fallait qu'il change le portrait, il fallait qu'il change de discours, il fallait qu'il change de décor. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd? Ça lui a donné une occasion de se... Et puis les émeutes, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre émeutes et protestations pacifiques.
Tout à fait.
Et j'ai pas besoin de vous dire, les casseurs qui, même à Montréal, il y a quelques jours, qui ont resté après que la grande partie de la foule avait quitté, puis ont fait la casse par la suite, bien, ils ont seulement donné une mauvaise image à ce qui était une manifestation pour les bonnes raisons et faite de façon pacifique. Donc, il a profité de ça. Puis, je vais vous dire honnêtement, Mario, en attendant votre appel, j'ai écouté les nouvelles américaines, on parle pas du COVID. Et si on en parle dans les 5 dernières minutes.
Je disais ça à Patrick Lagacé, d'ailleurs, en début de semaine, hier, que pour la première fois depuis le début de la pandémie, la COVID a été mise en échec et ce n'est plus la une. Est-ce que c'est un signe qu'on commence à l'apprivoiser et que, puis je sais pas si c'est bon ou mauvais, qu'il y ait un retour à la normale, que ça ne soit plus la une, puis un jour, il y a un autre événement qui va déloger les manifs, ça ne sera plus la une, ça non plus. C'est le cycle des nouvelles qui reprend le dessus. Comment vous l'interprétez?
Il n'y a pas de doute que qu'est-ce qui se passe en ce moment, que ce soit la crise de la santé, la crise économique et maintenant la crise sociale qui se produit aux États-Unis, il reste qu'il peut avoir une autre manchette dans un mois ou moins,
exact.
Ou plus, qui va toucher la sécurité ou la paix dans le monde. Parce que là, on a vu les Chinois ou le gouvernement de la Chine qui a agi contre Hong Kong. C'est clair que s'il y avait la paix sociale et il y avait une économie prospère, avec la force que les Américains ont, les Chinois se parlant plus réticents à faire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Hong Kong. Donc, on est dans une situation de fragilité. Et les Américains, contrairement à les gouvernements qui ont précédé M. Trump, ne semblent pas vouloir jouer un rôle de leader sur le plan mondial, sur le plan global. Mm-hmm. Toutes les grandes manœuvres, les grandes institutions, les luttes contre le terrorisme, la poussée pour la mondialisation, pour les échanges à travers les pays, tout ça a la signature américaine. Les Américains ont été les champions du multilatéralisme, ils ont été champions de la mondialisation. Puis là, aujourd'hui, on a un discours de retrait, un discours de protectionniste. Et donc, les alliés, moi, je vous dis honnêtement, je comprends que Mme Merkel ne peut pas faire le G7 à cause de les craintes de le coronavirus, mais on va se dire, dans les vraies choses, si vraiment il y avait une harmonie dans le G7, il y a des précautions qui peuvent être prises, puis Mme Merkel a pu facilement se rendre, mais ils ont décidé qu'ils ne veulent pas venir, puis là, c'est reporté, puis là, lui, non seulement il accepte de le reporter, il veut ramener la Russie qui a été exclue du G7. Quand c'était le G8, ils ont exclu la Russie pour son invasion de l'Ukraine.
Et donc, ça, c'est en réaction au fait qu'il a senti ce que vous venez de dire, John Parisella, dans le fond, là, il a senti l'hésitation parce qu'il voulait les inviter à Camp David. Là, en plus, bon, là, les manifs ont commencé, mais on a senti beaucoup, beaucoup de réserves. Il n'y a aucun premier ministre ou président de pays qui s'est enthousiasmé de l'idée d'y aller, là. Hein? On a été poli, mais il l'a bien senti.
C'est en plein ça. Puis je dis, M. Macron, c'est clair qu'il ne gagne pas en ce moment de faire des, si vous me permettez l'anglicisme, des photos-op à côté de M. Trump.
Non.
Mme Merkel, je pense que, pour employer une phrase québécoise, elle a son voyage. et M. Trudeau doit gérer à travers de ça. M. Trudeau joue, une carte beaucoup plus, beaucoup plus modérée face à Trump.
Mais parlons-en, si vous voulez bien, John, Justin Trudeau. Un silence de 21 secondes qui a suscité beaucoup de réactions. D'ailleurs, c'est en une actuellement du site de CNN. Trudeau was asked about Trump, see how long it took him to respond, et ça devient la manchette. On se souvient que Justin Trudeau avait soulevé l'ire du président Trump à l'issue du G7 de Charlevoix, oui. Vous vous rappelez, oui. Alors qu'il s'était positionné de façon, en tout cas, ça avait déplu au président Trump, qui lui avait bien remis la monnaie de la pièce de par quelques interventions là où il tentait de le rabaisser, Little Justin ou Justin, en tout cas, tu sais, on sentait pas beaucoup de respect. Comment pensez-vous que on interprète ce silence et comment vous l'interprétez? Ça me semblait pas un silence de malaise, ça me semblait un silence qui parlait. Quelle est votre opinion?
Oui, je pense que quand on écoute, on observe un silence de 21 secondes à la télévision, ça a quasiment un impact de 5 minutes. Donc, c'est très fort comme impact, comme tel. La question à savoir comment est-ce que M. Trump va réagir. Est-ce qu'il va trouver ça insultant? Est-ce qu'il va trouver ça une désapprobation? Ou est-ce qu'il va simplement conclure que il n'y a rien dit de mal, puis au bout de la ligne, il était peut-être surpris par la question. Tu sais, en tout cas, on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Une chose est certaine, c'est que, et ça, je lui donne crédit à M. Trudeau, il a dû gérer un président qui était complètement le contraire de celle qu'il avait reçue à la Maison-Blanche, qui était Barack Obama. Et la première chose que M. Trump a dit, pas longtemps après qu'il ait été élu, c'est qu'il fallait sortir de l'ALENA. L'ALENA est un élément bien important pour nos relations économiques avec les États-Unis. Mais on a eu quand même une négociation qui s'est terminée cet hiver et qui va s'appliquer aujourd'hui, la CAUM, qui est l'ALENA 2.0, comme on dit. Et ça va rentrer en application le 1er juillet. Pour M. Trump, il avait besoin de démontrer qu'il avait fait des gains. Pour M. Trudeau, il avait besoin de démontrer qu'il a empêché le pire. Et donc, je ne crois pas qu'il va avoir une répercussion importante ou marquée, parce que M. Trump, ce soir, il doit être un peu regardé les 140 villes des États-Unis qui sont l'objet de manifestations. Est-ce qu'il va avoir de la casse? Est-ce que ça va être simplement une manifestation pacifique qui peut avoir, dans mon esprit, un impact énorme et ça pourrait se répéter pour les jours qui suivent. Donc c'est encore tôt à dire qu'est-ce qui va se produire, mais ça démontre quand même ce malaise à l'intérieur de tout l'ensemble des alliés les plus proches des États-Unis face à M. Trump et sa façon de gérer. Donc on est dans une situation complètement différente et peut-être on est dans une tempête parfaite qui est une crise économique, une crise de santé et une crise sociale à l'intérieur de la frontière américaine.
Il y en a plusieurs qui pensent que c'est un... J'ai parfois envie de le penser par moment, mais on en revient toujours au calcul politique, le collège électoral, donc c'est pas juste une question d'avoir le plus de votes. Des fois, on peut gagner avec moins de votes, tel que vous l'avez rappelé tout à l'heure par rapport à la dernière élection contre Hillary Clinton. Mais est-ce que ceux qui pensent, comme j'ai parfois par moment envie de le penser, qu'il y a eu un point de rupture et que M. Trump ne pourra pas gagner la prochaine élection, en arrive à cette conclusion-là trop vite?
Moi, je pense qu'on arrive trop vite. Il est vulnérable comme il l'a pas été. Moi, j'ai fait un papier en début d'année qui disait « avantage Trump ». C'était mon feeling au mois de janvier. L'économie allait bien. On parlait d'un virus en Chine, mais on le voyait pas comme une pandémie. Et je pense que M. Trump avait le fait que, historiquement, une économie prospère comme ça n'amène pas la défaite d'un président sortant. Donc, je pense qu'il était bien parti, puis les États qui l'avaient fait gagner contre Mme Clinton, il y avait des avances dans les sondages, et M. Biden, au mois de janvier, avait de la misère dans sa propre campagne, et des gens étaient très déçus de sa performance. Donc, ça s'alignait tout pour une répétition de 2016, probablement un vote populaire plus élevé pour le démocrate, mais un collège électoral qui va voter majoritairement pour M. Trump. J'avoue qu'avec la pandémie et la façon qu'on revoit les prises de vue, ces réactions, que c'est un virus qui va partir au mois d'avril, tout ça, son insouciance, sa réaction, disons, en janvier, février, et peut-être jusqu'au début de mars, ont amené les gens à croire que ce n'était pas des gouverneurs, on serait vraiment dans une situation encore pire. Donc, il sait qu'il a perdu la bataille d'est-ce qu'il a bien géré la crise ou la pandémie. Comme ça, là, c'est clair que ça partira pas parce que les morts, il y en a 106 000 au moment qu'on se parle, puis probablement au moment de l'élection, on sera probablement près de 200 000. Donc, ça, il ne pourra pas l'éviter. Là, il y a le chômage. Le chômage, on va seulement frapper près du 20% bientôt, puis ça va être une reprise, mais elle va être lente, la reprise. Donc, encore là, il n'y aura pas une économie qui va bien performer, mais on va lui donner l'avantage sur Biden, parce que Trump s'est vu comme un gars très économique. Et en plus de ça, il y a la crise sociale qui risque de ne pas diviser le vote démocrate. Le vote démocrate était divisé dans le temps de Mme Clinton. M. Sanders l'a appuyé du bout des lèvres.
Oui.
Les gens qui avaient voté pour M. Obama ont été ceux qui ont été déçus, qui n'ont pas eu les changements nécessaires. Ils ont décidé de changer de camp puis aller avec Trump. Moi, je pense que ce vote-là va être beaucoup plus fort avec les démocrates. La question est-ce qu'il va être assez enthousiaste dans certains États clés? Puis il y a 5 États que vos auditeurs devraient retenir et regarder, c'est le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et j'ajouterais la Floride et peut-être l'Arizona peut être en jeu aussi. Donc on dit 5 ou 6 États. Le reste des États sont pas mal prévisibles. On peut dire ça va aller démocrate, ça va aller républicain.
Oui.
Mais ces 5 États-là, si les démocrates remportent, mettons, 4 des 5 ou 6 États, ils vont avoir non seulement, dans mon esprit, le futur président des États-Unis, mais probablement, ils risquent de même faire basculer le Sénat en faveur majoritairement des démocrates. Mais on est encore tôt à prédire.
Oui.
Ça, j'aime ça faire un peu de pédagogie sur ça,
oui,
plutôt que faire des prédictions à ce stade-ci.
Ben, c'est bien de le faire. C'est une belle sagesse, M. Parisella. Il y a des voix parfois qui s'élèvent en des temps où on cherche justement des voix rassurantes. Quand le leadership ne vient pas au niveau national de l'endroit où on souhaiterait qu'il vienne, il y a des voix comme ça, même dans le chaos, qui s'élèvent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti, notamment la voix de la mairesse d'Atlanta, pour ne nommer que celle-là, qui a résonné dans les cœurs de beaucoup d'Américains et au-delà des frontières américaines, Keisha Lance Bottoms. C'est drôle parce que la première fois que j'ai eu connaissance, le premier discours qui a résonné de Barack Obama, je pense que quiconque l'a vu s'en souvient. Ce sont des discours qui, on dirait, mettent quelqu'un au monde sur la carte, sur l'échiquier, oui, américain. Avez-vous le sentiment que c'est peut-être arrivé dans le cas de la mairesse d'Atlanta? Je ne présume de rien parce que, bon, elle ne deviendra pas candidat présidentiel là, dans quelques mois. Évidemment, c'est Joe Biden, mais qu'en pensez-vous?
Ben, je pense que c'est un bon choix, sûrement, dans mon esprit, éligible d'une courte liste.
Vice-présidence?
Ben, c'est pas impossible. Il a promis de nommer une femme. Je pense pas qu'il peut revenir sur ça. Et les femmes ont été tellement déterminantes dans la victoire et la reprise du Congrès, de la Chambre des représentants lors de les mi-temps en 2018. Je pense que Monsieur Biden doit faire le plein du vote féminin. Il y a des gens qui ont appuyé Trump qui sont prêts à changer de bord. Et la crise sociale dont on vit en ce moment ne risque de juste renforcer ça. Donc, il va choisir, je ne le vois pas revenir et décider qu'il va choisir un homme. Là, la question à savoir, est-ce que les événements des derniers jours ont mis une priorité plus pour le vote africain-américain,
oui,
qui n'a pas sorti à son plein niveau pour Mme Clinton, mais sortirait pour l'ancien coulissier de Barack Obama, qui est Joe Biden, et avoir une femme qui est africaine-américaine. C'est pour ça que je pense que la mairesse Bottoms, faut tenir son nom. Faut tenir le nom de Kamala Harris, la sénatrice. Et j'ajouterais la représentante, Mme Val Demings,
oui,
qui est de la Floride, qui a été la personne qui était une des gérantes de le procès d'impeachment de destitution de M. Trump, et qui est une ancienne chef de police et qui a fait des entrevues à la lumière de tout ce qui s'est passé dans les derniers jours à Minneapolis et impressionne le monde. Et là, les gens disent que M. Biden la connaît bien et qu'elle serait dans une espèce de courte liste, short list, comme on dit.
Ce serait plausible.
Donc, moi, je pense que vous avez raison de soulever la mairesse. Je pense une autre qui est impressionnante, mais je la vois pas dans une courte liste, mais c'est la mairesse aussi de la ville de Washington. Mais ça, je pense que ça, c'est compliqué probablement pour cette personne-là. Mais c'est clair que la mairesse d'Atlanta a une expérience exécutive étant mairesse. Elle est devenue, dans mon esprit, définitivement une personne à considérer. Et ça va être bien important parce que M. Biden va avoir 78 ans lors de l'élection.
D'ailleurs, je crains les débats en conclusion ou presque, M. Parisella. Ouais. Quand j'imagine les débats qu'on aura en campagne électorale, Trump-Biden, j'ai hâte de voir comment Biden pourra tenir le coup là, en face-à-face ou côte-à-côte à Trump. Mais en tout cas, il nous reste bien du temps pour spéculer là-dessus. Mais pouvez-vous visualiser la scène? On se souvient de Trump qui rôdait autour de Hillary Clinton sur l'estrade en plein débat. Je ne sais pas. En tout cas, je suis bien curieux de voir ça. On va faire de la bonne télé encore.
Ça va faire de la bonne télé, mais tu sais, je me souviendrai toujours que Al Gore avait fait un mouvement un peu semblable autour de George W. Bush en l'an 2000, et George W. Bush a arrêté de le regarder en voulant dire « qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, tout à coup, Monsieur Gore a arrêté de marcher comme tel, mais ça, c'était capté. Il y a beaucoup de gens qui disent « c'est là que Monsieur Bush a gagné le débat. » Donc, c'est encore très tôt. On va avoir toutes sortes de spéculations, mais il n'y a aucun doute qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais prévu, mais quand on voit un meurtre à pleine télévision, comme on a vu, et il y a encore trois policiers qui ont été congédiés avec le policier Chauvin et qui ne sont pas encore arrêtés. Et tant que ces gens-là ne seront pas arrêtés, je pense que les manifestants n'arrêteront pas.
Non, vous avez raison. Merci beaucoup, John Parisella, pour cette réflexion. Encore une fois, une excellente fin de soirée. Merci, à la prochaine.
Merci, Mario. C'est toujours un plaisir de vous parler.
Oui, merci. Beaucoup. Merci à vous.
Bonne
au revoir.
Soirée. Merci, au revoir.
John Parisella, qui a été généreux de son temps et de sa réflexion sur la situation aux États-Unis. Quelques messages, ensuite de quoi? Ben, les nouvelles avec Guy Simard et la mairesse de Magog qui nous attend à nous parler de la ville, nous parler de l'été qui s'en vient, de la gestion de la pandémie. Vicky Mayham dans quelques instants.